gloire au Seigneur. Le désir du Seigneur est de toujours nous attirer près de lui. Toujours. C'est le bon berger, n'est-ce pas? Et le bon berger aime toujours être près de ses brebis. Et une vraie brebis aime toujours être près du bon berger, n'est-ce pas vrai? Que c'est beau un troupeau qu'on voit, les brebis bien groupées et qui sont là autour du berger. Quelle image! Quelle réalité! Quelle sécurité! Quelle assurance! Un tel tableau, n'est-ce pas vrai? Et nous avons besoin, mes amis, dans ces temps que nous vivons, ces temps où le Seigneur est proche et à la porte, plus que jamais nous devons préparer nos cœurs à aller à sa rencontre. Plus que jamais, il faut qu'il soit le premier en tout, absolument tout, qu'il soit le premier dans notre vie. Amen. Et le Seigneur veut que nous creusions un peu plus profond dans notre vie spirituelle. Vous connaissez cette parabole que le Seigneur a donnée sur la maison bâtie sur le roc et l'autre bâtie sur le sable. Et Jésus a dit, en parlant de la maison bâtie sur le roc, celui qui a bâti, le sage, il est dit, il a creusé bien avant. Creusé, voyez-vous, il s'est donné la peine de creuser. Il y a eu un effort, il a transpiré, ça lui a coûté quelque chose, tandis que l'autre construit sa maison sur le sable, il n'a pas le temps, lui. Toujours pressé, il est toujours pressé. Il faut que toujours ce soit tout vite fait. C'est une vie chrétienne presse-bouton, voilà. Boum, allez, lui, bénis-moi, si tu ne me bénis pas, au revoir, tu ne me vois plus, terminé. Voilà, c'est le chrétien presse-bouton. Voilà. Et chaque fois qu'il appuie sur un bouton, ça doit marcher tout de suite. Si ça ne marche pas tout de suite, qu'est-ce que c'est que ça ici? Ça ne marche pas. Non, mes amis. Et heureusement que ça ne marche pas toujours. Parce que Dieu, dans son amour, s'il acceptait tout ce que tu lui demandes, tu serais perdu, tu serais gâté. Un enfant gâté, vous savez ce que c'est un enfant gâté? Il devient gâteux. Et on ne peut plus rien en faire, n'est-ce pas vrai? On lui doit tout. Il y a des chrétiens comme cela. On leur doit tout. Tout. Tout est facile, trop facile. Trop facile! C'est la maison sur le sable! Ah, je comprends pas pourquoi tu souffres, toi. Regarde, ma maison, elle est déjà bâtie. Je comprends pas pourquoi tu transpires. Lui, il a déjà sa maison. Parce qu'il est bâti sur le sable et l'autre, il est en train de faire ses fondations, ça va pas vite. Pauvre type! Transpire! Pauvre type. Ah oui, je voudrais bien savoir qui sera le pauvre type à la fin. Qui rira bien, rira le dernier. Écoutez-moi bien. Qui rira bien, rira le dernier. Quand le vent soufflera, quand la tempête soufflera, quand la pluie tombera, quelle est la maison qui tiendra debout? Je crois que Dieu nous appelle tous à aller plus loin avec lui, à creuser plus profond et aller plus loin avec lui. Si tu veux, aller plus loin. Plus loin. C'est le titre de mon message ce matin. Plus loin. Si tu veux aller plus loin. Et pour cela, j'ai choisi trois textes où il est parlé de plus. De plus. De plus pour notre vie chrétienne. Trois textes que vous connaissez tous, qui nous conduiront plus loin. Je vais vous les donner tout de suite, ces trois textes, parce que si je ne les donne pas maintenant, vous risquez de ne plus les avoir après. Trois beaux textes que vous connaissez bien. Si tu veux aller plus loin, et souligne bien plus loin. Premier texte, Jean chapitre 15, les deux premiers versets. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Voilà un premier plus. Un premier plus. Tu vas aller plus loin, voilà un plus. Plus de fruits. Voilà ce que Dieu veut pour toi. Plus de fruits. Mais comment ? Nous allons le voir tout à l'heure. Tu vas aller plus loin ? Alors, il faut porter plus de fruits. Un deuxième passage où il est parlé de plus aussi. Acte 20, verset 35. C'est l'apôtre Paul qui dit au revoir un peu aux anciens d'Éphèse. Et alors là, il donne des paroles comme les dernières paroles qu'il donne avant de partir, car il leur a dit « Bientôt vous ne verrez plus mon visage ». Et ils se jetèrent à son cou et ils pleurèrent tous. Et il leur a dit ceci, acte 20, 35, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a, qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles ? Plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Un deuxième plus. Plus de fruits et maintenant plus de bonheur ou plus de joie à donner qu'à recevoir. Plus de dons de nous-mêmes. Plus de fruits tout à l'heure et maintenant plus de dons de nous-mêmes. Et au verset 36, après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il prit avec eux. Et tous fondirent en larmes. Et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne le verrait plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Quel témoignage extraordinaire. Amen. Quel témoignage pour un serviteur de Dieu. Quel beau témoignage. Rien que ça, ça vaut de l'or. Ce sont des paroles qui valent de l'or. Leur cœur était tellement attaché à leur serviteur. Quand il leur a dit, c'est la dernière fois que vous me verrez, c'est pas possible. Dernière fois, toi Paul, tu es passé au milieu de nous. Tu nous as enseigné la bonne nouvelle. C'est pas possible. Mais il leur dit, rappelez-vous les paroles du Seigneur. Rappelez-vous, j'étais que le serviteur du maître. Faites comme le maître et je serai content. Rappelez-vous, il leur dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous devons nous en rappeler, mes amis. Plus. Veux-tu plus dans ta vie chrétienne ? Que de chrétiens disent, Seigneur, j'en veux plus, d'accord ? Seigneur, exauce ta prière. Mais comment ? Il y a les conditions pour cela. Ça ne va pas tomber du ciel comme cela. Tu as toujours ta part à faire. N'est-ce pas vrai ? Toujours. Un troisième plus maintenant. Romains, chapitre 8, verset 37. On peut déjà lire un petit peu avant. Au verset 32, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré lui-même pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité des morts. Il est à la droite de Dieu et l'intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse ou la persécution ? Ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie...
J'ai l'assurance, l'assurance. Avez-vous, avons-nous cette assurance?
J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les à hauteur, la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Mais dans toutes ces choses, nous sommes... plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Encore un autre plus, vous ne trouvez pas ici? C'est le plus de la victoire. Amen. Le plus de la victoire. Premièrement, le plus de fruits. Deuxièmement, plus de dons de nous-mêmes. Et troisièmement, plus de victoire. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Si tu veux aller plus loin, un premier plus, Jean 15. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. C'est une parole apparemment dure, vous êtes d'accord avec moi? Si c'était le pasteur qui vous le disait, oulala, ce serait insupportable, n'est-ce pas vrai? Mais c'est le pasteur des pasteurs, c'est Jésus. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Rappelez-vous, c'est toujours un cœur d'amour qui vibre et qui veut que ses enfants portent du fruit. Car être chrétien, c'est porter du fruit. C'est pas rester stérile. La stérilité est dans le monde. Parce que nous étions sans le Seigneur. Et parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais avec le Seigneur, tout change. Si le don de notre vie est total au Seigneur, il se passe quelque chose. Et le Seigneur veut tout simplement dire ici, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Ça veut dire que si nous nous disons chrétiens et que notre vie ne change pas, alors il faut tout simplement conclure que nous ne sommes pas des vrais chrétiens. Tout simplement. Et malheureusement, un peu de partout, dans des églises, il y a des gens qui se disent chrétiens, n'est-ce pas vrai? Et regardez leur vie, est-ce qu'il y a un changement? Rien du tout. Ils sont fidèles à l'Église. C'est comme une tradition religieuse qui est là. Mais, question changement, rien du tout. Et cela, le Seigneur, parce qu'il nous aime, il nous dit ça, avec moi ça n'existe pas. Ne te crois pas chrétien quand ta vie n'a pas de changement. Quand tu es toujours la même personne. Quand tu as toujours le même regard impur. Quand tu as toujours les mêmes mauvaises paroles qui sortent de ta bouche. Quand tu as toujours le même langage grossier. Quand tu lis toujours la même littérature impure. Quand tu fréquentes encore des camarades ou des amis qui ont une mauvaise influence sur toi. Quand tu fais les choses en secret et que tu ne voudrais pas que cela soit connu, alors tu ne portes pas des fruits dignes de la repentance. C'est comme la maison bâtie sur le sable. Au dernier jour, la maison s'écroule et tout est perdu. Donc, ce que le Seigneur veut nous dire, mes amis, si nous sommes vraiment greffés sur le Seigneur, nous les sarments, greffés sur le cèpe, automatiquement il doit y avoir la vie et des fruits. N'est-ce pas vrai? Des fruits, c'est logique. Si tu te dis avoir l'Esprit de Dieu en toi, alors cet Esprit doit se manifester. Que de chrétiens, quand vous les voyez, on voit tout du monde et rien de Jésus. Du monde, l'esprit du monde, mais l'esprit de Jésus est où? C'est pourquoi Jésus dit, si tu te crois un sarment et tu ne portes pas de fruits, ben, un jour tu seras retranché. Ça veut dire que il n'y a pas de salut pour cette personne-là. Mais si tu portes du fruit, voyez-vous, dans son amour, quand il voit que nous sommes sincères, qu'il y a un changement, que nous voulons changer, que
Nous désirons vraiment vivre une vie nouvelle. Amen. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi ? Pour vivre des choses nouvelles. Pourquoi êtes-vous devenu chrétien ? Si c'est pour vivre une vie totalement nouvelle, à quoi ça sert ? À quoi ? Si on vit cette nouvelle vie, c'est pour vivre une vie totalement nouvelle. Dieu voit ce désir au fond de nous. Et il dit, eh bien, si tu portes du fruit, il est tout sarment qui porte du fruit, il les monde. Pourquoi ? Parce qu'il ne nous aime pas, mais afin qu'il porte encore plus de fruits. Voyez-vous, Dieu n'est jamais satisfait avec nous-mêmes. Nous, nous sommes facilement satisfaits, vous êtes d'accord avec moi ? Alléluia, Seigneur, voilà, maintenant ça va. J'en ai assez fait, oui, tout ça, tout va très bien. Oui, on s'endort facilement sur nos lauriers, vous êtes d'accord avec moi ? C'est un peu notre nature, là. Non, on s'endort facilement. On a fait deux, trois petites choses pour le Seigneur, on dit voilà, maintenant, oh là là. Alors maintenant, on commence à pavaner un peu toutes nos réalisations extraordinaires. On a des grands mots dans notre bouche. Et Dieu nous dit, mon enfant, attention, tu as porté du fruit. Mais je veux que tu portes encore plus de fruits. Ne sois pas satisfait comme ça. Parce que le sarment qui a porté du fruit, ce sarment qui a porté du fruit l'année prochaine, il faut le couper, vous êtes d'accord avec moi ? Celui-là, il est fini. Nous habitons dans une région où il y a pas mal de vignobles, et je vois actuellement, ils sont en train de tailler là-bas. Il y a quelque temps, il y avait des sarments un peu de partout. Maintenant, vous savez ce qui reste ? Juste une tige. Plus rien. Le vigneron, il a tout coupé. Vous dites, oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer avec ça ? Eh oui, les sarments qui ont porté du fruit l'année dernière, maintenant, ils doivent être émondés. S'il laissait cela, qu'est-ce qui va se passer ? Il va pousser deux, trois grains par-ci, par-là. Deux, trois grappes, c'est tout. Ça peut-être encore pousser un petit peu, mais qu'est-ce qui va se passer ? S'il n'émonde pas quelques grappes de raisin, rien à comparer avec ce qui était passé de l'année dernière. Autrement dit, la récolte va aller en diminuant. Autrement dit, si notre vie ne va pas en portant plus de fruits, notre vie ira en portant moins de fruits. Jusqu'au jour où ce sera la stérilité totale. Voyez-vous, si Dieu nous émonde, c'est pour nous sauver finalement. Allez voir un vigneron, dites-lui, mais pourquoi vous faites du mal à ces sarments ? Vous n'êtes pas gentil. C'est justement ce sarment qui a porté beaucoup de fruits l'année dernière. Ne le coupe pas, s'il te plaît, laisse-le, laisse-le. Aie pitié de ce sarment. Il t'a donné tant de fruits. Bon, d'accord. D'accord. Tu veux que je le laisse ? Laissons-le. L'année prochaine, vous arrivez, le même sarment. Une grappe par-ci, par-là, alors que l'année dernière, c'était l'abondance. Cette fois, plus grand-chose. Et si vous faites comme ça pendant quelques années, qu'est-ce qui va se passer ? Il n'y aura plus rien du tout. N'est-ce pas vrai ? Il n'y aura plus rien du tout. Donc, voyez, vous, pourquoi Dieu nous émonde ? Il ne veut pas que nous en restions sur nos expériences passées. Trop de chrétiens vivent avec le passé, n'est-ce pas vrai ? La vie chrétienne est une vie vécue aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, la vie chrétienne, c'est vivre aujourd'hui. À quoi cela sert-il si tu as fait des grandes expériences dans le passé, des choses extraordinaires, et si aujourd'hui tu es stérile ? Et si aujourd'hui tu es un moribond ? Le passé doit nous inspirer à vivre mieux notre présent. Amen ? Mais le passé ne doit jamais être une excuse pour notre présent, pour dire « Oh ben maintenant, j'ai fait mon temps. » Même dans ta blanche vieillesse, le Seigneur veut te bénir et te rendre en bénédiction. Amen. Il n'y a pas d'âge pour le Seigneur. Constamment, nous devons grandir. Si nous ne grandissons pas, nous baissons. Nous reculons. Si tu n'avances pas, tu recules. Je pense maintenant à un serviteur de Dieu belge là, que j'ai connu il y a quelques années. Et il disait souvent, parce qu'il s'appelait Alphonse, et il disait souvent, « Fonce, Alphonse, sinon tu t'enfonces. » Il était plein d'humour, ce serviteur de Dieu. Et il disait toujours, fonce Alphonse, sinon tu t'enfonces. Et c'est vrai, c'est tellement vrai, n'est-ce pas vrai ? Fonce, avance. Si tu n'avances pas, tu recules. N'est-ce pas vrai ? Si tu n'avances pas, tu recules. Et pour porter plus de fruits, le Seigneur doit nous émonder, ça fait mal. Mais il veut que nous ne vivions pas de nos expériences passées. Il veut que notre vie chrétienne soit en renouvellement journalier. Amen. Journalier. Il nous émonde, non pas parce qu'il ne nous aime pas. Voyez-vous, on n'aime pas ce mot émonder. On n'aime pas entendre ah, « le Seigneur vous émonde ». Mais finalement, quand le dommage. Est-ce qu'il fait cela? Pas du tout. Il va plus loin. Il voit plus loin. Et il dit, allez, allez. Maintenant, tu as fait ton travail, c'est très bien. Très bien. Allez, maintenant, c'est fini. Voilà. Et autre chose va revenir. Et il se réjouit. Et maintenant, de là, va pousser autre chose. Autre chose, quelque chose de nouveau. De nouveaux fruits, de nouveaux dons, un nouvel amour, une nouvelle consécration, une nouvelle obéissance. Alléluia! 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 Et quand le Seigneur est monde, il est plein d'espoir à ton égard. Plein d'espoir! Alléluia! Ne te décourage pas quand le Seigneur te reprend au tes mondes. Ne te décourage pas! Lui, il est plein de courage! Et il te dit, allez! Allez! Travaillons ensemble! Nous sommes ouvriers avec Dieu! Ne te décourage pas! Je le fais pour que tu portes plus de fruits. Si je ne le fais pas, tu t'endors et tu risques de te perdre. Tu risques de te perdre. Les temps d'épreuve sont des temps de bénédiction, toujours des temps de bénédiction. Mais on ne le comprend pas tout de suite. Pas tout de suite. Après coup, sur le moment, on pleure, c'est vrai. Nous sommes humains. Mais après coup, quand nous regardons notre vie en arrière, les moments les plus bénis, c'était précisément ces moments d'épreuve où Dieu émondait, Dieu approfondissait en nous son œuvre. On était obligé de creuser pour méditer la parole, creuser pour prier, creuser pour louer, creuser pour parler, creuser. C'est important. Plus de fruits. Veux-tu plus de fruits? Alors, il faut qu'il émonde. Tu ne dois plus vivre de ton passé. Tu ne dois plus t'appuyer sur ton passé. Chaque jour doit être une vie nouvelle avec le Seigneur. Amen. Plus de fruits. Le Seigneur veut plus de fruits dans ta vie. Si vous dites, oh là là, où j'en suis? Il n'y a pas beaucoup de fruits. Alors s'il n'y a pas beaucoup de fruits, le Seigneur va t'émonder. Et quand il t'émonde, ne dis pas, oh Seigneur, délivre-moi. Souvent, certains chrétiens, quand ils sont dans l'épreuve, ils disent, Seigneur, délivre-moi de l'épreuve. Mais non! Il est en train de t'émonder. Dis-lui, alléluia. Tant que tu es pressé dans l'épreuve et que tu dis, Seigneur, délivre-moi, ça durera un peu plus longtemps. Plus on est pressé, moins le Seigneur est pressé. Quand il voit que nous sommes pressés, il dit, ah, t'es pressé, t'en sortir. Moi, je n'ai pas de montre. Toi, t'as ta montre. Mais moi, je n'ai pas de montre. Ah, je vois que t'es pressé. Alors, il faut que ça dure un peu plus longtemps. Et plus nous sommes pressés, plus ça durera longtemps l'épreuve. Ah, vous dites, c'est comme ça? Et moi, je suis en train de pleurnicher en disant, délivre-moi, délivre-moi. Mais non! Tu as prié, je veux plus de fruits. Et il est en train d'émonder. Et dans l'épreuve, n'accuse pas les autres, parce qu'il y en a qui sont champions dans l'épreuve. Il faut mettre la faute sur les autres. Vous êtes d'accord avec moi? Ils sont champions pour voir ce qui ne va pas chez les autres. Non! Regarde dans ton cœur. Dans ton cœur. Il veut ôter ce qui est bien peut-être, mais qui est inutile maintenant. Il veut ôter le mal aussi, mais aussi les choses inutiles. Que de choses nous faisons inutilement et qui sapent notre énergie et qui nous empêchent de nous donner 100% pour le maître. Avez-vous vu un athlète? Avez-vous vu un athlète qui remporte les Jeux Olympiques? Avez-vous remarqué sa discipline, sa consécration? Avez-vous remarqué tout cela? Tout le monde ne monte pas sur la haute marche de la haute oui haute marche c'est ça du podium. Par quel chemin il est passé? Vous êtes d'accord avec moi? Par quel renoncement il est passé? Mais quand il est sur cette marche, sur la plus haute marche. Quelle récompense aussi. Amen.
Quelle récompense! Mais beaucoup de chrétiens, ils veulent être sur la première marche, mais ils font rien du tout. Ils sont là, rien, ouais, zéro. Et aucune consécration, aucun renoncement, aucune discipline, rien du tout. Et ils veulent encore remporter les premiers prix! Ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça. Plus de fruits, alors il doit émonder. Enlever tout ce qui est inutile. Aller en profondeur. Il veut aller en profondeur dans ta vie. Les épreuves sont en définitive des bénédictions. Des bénédictions. Quelqu'un a dit un jour, j'avais lu ça, tout nuage noir a son bord d'argent. Amen. Tout nuage noir a son bord d'argent. Alléluia. Mon ami, ne te décourage pas. Tu veux plus de fruits, alors il va t'émonder. Il va purifier, il va enlever tout ce qui est inutile dans ta vie, qui a été peut-être une bénédiction dans le passé, mais maintenant, il faut avancer, il faut aller plus loin. Ne te décourage pas. C'est pour que tu portes plus de fruits, et tu le comprendras plus tard. Tu le comprendras quand tu seras devant le trône de Dieu. Et tu verras que les couronnes ou les bénédictions que tu as reçues, ce sont celles que tu as reçues au travers des épreuves douloureuses. Mais là où tu ne t'es pas rebellé, naturellement, si tu te rebelles, tout est perdu. Mais là où tu acceptes comme étant la main du Seigneur, la main du vigneron qui t'émonde pour que tu portes plus de fruits, cette même main qui t'émonde aujourd'hui sera la même main qui te couronnera là-haut. Alléluia. Ne l'oublie pas, la main qui t'émonde, c'est la main percée du Maître. C'est une main d'amour. Il ne fera pas plus que tu ne peux supporter. Si tu passes par telle épreuve, ne dis jamais, c'est au-delà de tes forces. Il a tout dosé. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Quel amour! Celui qui émonde, c'est celui qui a la main percée. Il dose tout. Il te connaît. Fais-lui confiance. Dis-lui, Maître, d'accord, oui, Seigneur, dis-lui simplement ça, je te fais confiance. Et il fera une œuvre admirable dans ta vie, douloureuse, sûre, mais admirable en définitive. Amen. Éternellement, tu le béniras pour cela. Mais Dieu veut que tu portes encore plus de fruits. Il n'est pas question de dire maintenant c'est fini, jamais. Jamais. Toujours plus. Toujours plus. Une soif toujours plus grande du Seigneur. Une obéissance toujours plus grande à sa parole. Une consécration toujours plus grande. Voilà ce que Dieu attend de toi. Sinon, tu tourneras en rond et tu commenceras à reculer. Plus de fruits. Veux-tu aller plus loin? Et maintenant, plus de don de soi-même. Jésus lui-même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est drôle, cette parole, on ne la trouve pas dans les évangiles. Hein? Mais c'est l'apôtre qui dit, et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même. Bien sûr, c'est dans l'ensemble, on voit bien que ces paroles se retrouvent dans les évangiles, n'est-ce pas? Mais il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc plus de joie de se donner soi-même. Que de chrétiens ne vivent que pour recevoir. Ils sont contents quand ils reçoivent, mais ils pleurnichent quand ils donnent. Voilà la version de certains chrétiens. Quand il faut donner, encore moins, encore moins. Et quand il faut recevoir, ils sont là, ils sont contents. Mais quand ils donnent, ils pleurent. Mais Jésus veut que nous allions plus loin. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. As-tu expérimenté ce bonheur-là? Sincèrement, j'ai plus de bonheur à recevoir qu'à donner, moi. Eh bien, il faut aller plus loin. Amen. Il faut aller plus loin. Recevoir, c'est humain. Donner, se donner, c'est divin. Alléluia. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et quand on donne, il faut donner toujours le meilleur de soi-même. Amen.
Un jour, j'avais lu cette petite histoire. C'était en Angleterre, je crois. C'était un jour de pluie. Et le prince de ce pays, il se trouvait en promenade, comme ça, dans la rue. Et il a commencé à pleuvoir d'une manière terrible. C'était vraiment une véritable averse. Alors il est allé tout de suite s'abriter un petit peu, quelque part, dans des, contre des bâtiments comme cela. Et il s'est mis un peu à l'abri. Et là, comme la pluie continuait à tomber, il a dit, je vais frapper à la porte là, et je vais demander... à ce qu'on me prête un parapluie pour rentrer à la maison, parce qu'il n'avait rien du tout, il a été surpris par la pluie. Alors il frappe à la porte, une vieille dame ouvre, elle ne savait pas que c'était le prince. Je ne savais pas. Ma chère dame, je suis surpris par la pluie, je voudrais bien rentrer à la maison, est-ce que vous voulez me prêter un parapluie? Je vous le ramènerai, soyez sans crainte, on vous le ramènera, je vous le ramènerai. Alors la petite mémé est allée dans un coin de la chambre, plus loin, elle a commencé à réfléchir. Qui c'est cet inconnu? Qui c'est cet inconnu? Il me dit qu'il va le ramener. Pas si sûr que ça. Qui c'est celui-là? Je le connais pas bien. Et puis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas sûr. Alors, comme je suis pas sûr, eh bien, je vais pas donner mon beau parapluie. Il y en a un vieux qui est là. Il y en a un vieux, là. Il est presque troué. Tant pis, on saura quelques gouttes sur la tête, ça lui fera du bien. Je vais lui donner celui-là. Mon beau parapluie, non, je ne le connais pas, c'est un inconnu. Donne pas. Alors elle revient avec son vieux parapluie. Voilà, monsieur, je vous le passe, ce parapluie, je vous le donne. Merci, madame, c'est gentil. Et lui, il est parti avec ce parapluie. Quelques jours après, un monsieur bien habillé arrive. C'était le serviteur du prince. Vous voyez, avec la limousine, le Cadillac, Mercedes, tout ça. Qui arrive. Elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui vient me voir en Cadillac? C'était pas le prince, c'était simplement le serviteur. Et il descend avec un paquet, justement, dans les bras. Un petit paquet enveloppé. Frappe à la porte, elle ouvre. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Comment? Qu'est-ce que... Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle voit tout de suite qu'il y avait quelque chose de royal derrière. Elle voyait la limousine, tout. Elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et le serviteur dit, voilà, il y a quelques jours, le prince est venu chez vous. Il vous a demandé un parapluie. Et je vous le ramène. Je crois que c'était comme une bombe qui lui tombait sur la tête. Elle a pris le parapluie, elle est rentrée, l'autre est parti. Mais elle s'est dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que le prince va penser de moi? Pourquoi est-ce que je ne lui ai pas donné le meilleur? Qu'est-ce qu'il va penser? Que je n'ai aucun amour pour le prince, la plus haute autorité de mon pays. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Et là, elle s'est lamentée, réalisant qu'elle avait manqué la plus belle occasion de sa vie. Vous êtes d'accord avec moi? C'était ce jour-là qu'il fallait donner le plus beau des parapluies, vous êtes d'accord? C'était ce jour-là! Et le Seigneur bien souvent vient. Et qu'est-ce que nous lui donnons? Il vient d'une manière ou d'une autre. Il envoie ses serviteurs, il envoie quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous donnons toujours les vieilles choses. Mais ce que nous faisons à l'un de ses petits, c'est au Seigneur que nous le faisons. Ne l'oubliez pas. Et ça, beaucoup de chrétiens ne l'ont pas compris. Les vieilleries, mais le meilleur pour nous-mêmes. Mes amis, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si tu donnes et tu te donnes, tu dois donner le meilleur de toi-même. Car ce que tu fais, tu ne le fais pas pour les hommes, tu le fais pour le Seigneur.
Et là encore, beaucoup de chrétiens n'ont pas compris cela. Quand ils font quelque chose, ils le font pour une telle personne, pour le pasteur, pour ceci, pour cela. Mais ils ne font pas pour le Seigneur. Et tant que tu ne fais pas pour le Seigneur, tu te justifies dans tout ce que tu fais. De toute manière, il mérite bien ça. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Ah. Et quand au jour du jugement là-bas, il te dira, voilà tout ce que tu m'as donné, par l'un et par l'autre, toutes les vieilleries que tu as données, qu'est-ce que tu vas faire là? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te lamenter? Seigneur, mais je ne savais pas que c'était pour toi. Comment tu ne savais pas? C'est bien écrit. Que tout ce que vous faites, vous le fassiez comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tout ce que tu as fait pour l'un de ces petits, c'est pour moi. Est-ce que ce n'est pas écrit? Tu ne l'as pas lu? Ah oui, mais je ne savais pas que c'était écrit. Comment tu ne savais pas? Quelle honte ce jour-là, n'est-ce pas? Avant qu'une telle chose nous arrive, mes amis, parce que Dieu nous aime, c'est vrai, cela ne joue pas avec notre salut si nous sommes sauvés, mais les récompenses, est-ce qu'il y en aura? Et les récompenses seront différentes pour les uns et pour les autres. Vous êtes d'accord avec moi? Il y en a qui ont bâti avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, et l'autre du foin, du chaume, de la paille, des choses qui ne coûtent rien. Tu donnes des choses qui ne te coûtent rien. Si ça n'a pas de valeur à tes yeux, ça n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. David n'a-t-il pas dit « Je n'offrirai pas à l'Éternel des sacrifices qui ne me coûtent rien. » Que le Seigneur nous aide, mes amis. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Est-ce que ça te coûte quelque chose? Ça te coûte. Si ça te coûte, alors ça a de la valeur. Si ça a de la valeur à tes yeux, ça aura de la valeur aux yeux de Dieu. Mais si tu donnes les restes, alors ne sois pas étonné qu'au jour où tu passeras, où nous passerons devant le tribunal de Christ, là il y aura des surprises. Des surprises. Mais Dieu nous aime. Et il veut nous dire maintenant, change ton fusil d'épaule. Ne vis plus pour recevoir, vis pour donner. Et quand tu donnes, il vaut mieux donner peu, mais le donner le meilleur de soi-même. Amen. Que de faire de mille et une choses mal. C'est là la tragédie avec beaucoup de chrétiens. On fait beaucoup de choses, mais à moitié, superficielles. Ça ne coûte rien. Dieu nous dit, vaut mieux que tu fasses rien du tout. Fais peu plutôt. Alléluia. Mais ce que tu fais, fais-le de tout ton cœur. Même un verre d'eau ne perdra pas sa récompense. Quand on le fait au nom du Seigneur, ça veut dire par amour pour le Seigneur. En donnant à la personne, dans votre cœur, ce n'est pas la personne que vous donnez, c'est au Seigneur. Quand on comprend cela, mes amis, alors tout change. Tout est transfiguré. Amen. Avant que nous soyons embarrassés devant le Seigneur et devant son tribunal là-haut, il vaut mieux que nous soyons embarrassés maintenant et que nous lui disons au Seigneur, pardonne, je veux changer. Je ne vais pas te donner le vieux parapluie troué, percé, mais le meilleur que j'ai. Digne l'agneau de recevoir le meilleur de nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il a donné le meilleur de lui-même pour nous. Amen. Celui qui nous demande cela, c'est celui qui nous a donné l'exemple. Quand il te demande de me donner le meilleur de toi-même, lui, il a donné l'exemple. Il a tout donné. Il t'a tant aimé. Il y a ce grand amour, il n'y a qu'un grand amour de notre part qui pourra réjouir son cœur. Amen. Oui, le Seigneur réjouit ton cœur bien souvent, mais toi, est-ce que tu réjouis son cœur? Est-ce que tu penses à réjouir son cœur en l'aimant, en obéissant, en consacrant à lui, en faisant des choses qui te coûtent et pas seulement à te laisser aller comme cela? Plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si un chrétien vit non plus pour recevoir, mais pour donner et se donner, ce chrétien n'est plus le même. Il sera comme une source d'eau, d'eau vive dont les eaux ne tarissent point. De son sein couleront des fleuves d'eau vive, alléluia! Et je termine.
un troisième plus. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le plus de la victoire. Le plus de la victoire. Pourquoi nous pouvons avoir une vie chrétienne victorieuse? Romains 8, 37 nous le dit. Par celui qui nous a aimés. Et juste un peu avant, il est dit, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, certains chrétiens, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent tout ça, puis après ils disent, mais à part toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. À part toutes ces choses qu'on vient de lire, je suis plus que vainqueur. Comment ça va faire? Oui, ça va très bien. À part toutes mes difficultés, mes tribulations, mes angoisses, mais tout ça, je suis plus que vainqueur. Ça va bien. Mais ce n'est pas la même version de Paul. Paul, il ne dit pas, mais à part toutes ces choses, tout va très bien. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais dans toutes ces choses, au milieu de la persécution, de l'angoisse, de la tribulation, de la faim aussi, de la nudité, de la faim. Paul a manqué de faim, a manqué de nourriture. Et il aurait pu dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Seigneur, tu prends pas soin de moi. Mais si, prenez soin de lui. Mais ce sont des tests aussi, par lesquels Dieu nous fait passer. Amen. Pour voir si on l'aime lui de tout notre cœur. Ou si on aime son service. Avant de l'aimer lui. Et toutes ces épreuves, tout cela nous purifie et nous donne d'aimer le Seigneur lui en premier. Amen. Dans ma Bible, j'ai une certaine annotation. J'avais noté cette pensée au sujet du roi Alexandre. Et il disait ceci, j'ai deux genres de serviteurs autour de moi. Alexandre, le grec, le fameux grec disait ceci. J'en ai un. J'ai deux sortes de serviteurs qui m'aiment autour de moi. Il dit, j'en ai un qui m'aime parce que je suis Alexandre. Et le deuxième m'aime parce que je suis le roi Alexandre. L'un aimait sa personne et l'autre aimait sa position, ses titres. Qui est-ce qui l'aimait véritablement? C'est celui qui aimait Alexandre, pas seulement le roi Alexandre. Et beaucoup de chrétiens aiment seulement Jésus pour tout ce qu'ils reçoivent de lui. Mais Dieu veut nous conduire plus loin. Il veut nous donner d'aimer Jésus, même lorsqu'il ne nous donne rien du tout. Voyez-vous ce qu'il est dit ici? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, même quand on a l'impression que Dieu lui-même est contre nous. Et qu'on ne doute pas de son amour, quand tout semble, et entre guillemets, semble, bien sûr, ce n'est pas la réalité, mais on a l'impression que Dieu lui-même est contre nous, alors que ce n'est pas vrai, mais on a cette impression que Dieu lui-même est contre nous, et qu'on reste malgré tout confiant, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, mais dans toutes ces choses, nous avons l'assurance que Dieu nous aime malgré tout. Alléluia! Avoir l'assurance que nous sommes aimés de Dieu, quelles qu'en soient les circonstances, favorables ou non, avoir cette pleine certitude inébranlable que Dieu nous aime, quelles que soient les circonstances malheureuses, heureuses de notre vie, que Dieu m'aime encore, m'aimera toujours et que son amour ne m'abandonnera jamais. C'est la source d'une vie chrétienne victorieuse. Personne ne pourra ébranler la foi de ce chrétien. Personne! Il pourra dire, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Mais écoutez-moi bien, mes amis, je termine. Mais doutez un instant de l'amour de Dieu pour vous. Il n'y a plus de victoire possible. Amen. Doutez un instant. Est-ce que Dieu m'aime? Si toutes ces choses m'arrivent, c'est parce que vraiment, finalement, c'est parce qu'il ne m'aime pas. Ça y est, c'est le poison. C'est le poison. C'est le poison que l'ennemi veut mettre dans ta pensée, te faire douter que Dieu t'aime. Si tu acceptes cette pensée-là, c'est la dépression, c'est le découragement, c'est l'isolement. Alors à ce moment-là, il n'y a plus de vie, de victoire possible. Amen. Pour s'en sortir, il faut être convaincu que Dieu n'est pas contre nous. Quelles que soient les apparences, il t'aime. Si tu restes près de lui, il t'aime et il t'aidera, il t'encouragera. Son amour demeure éternellement. Il ne change pas. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? As-tu cette assurance que Dieu t'aime? Même quand tout est contre toi. Même quand les hommes sont contre toi. Même quand tu as l'impression que Dieu est contre toi, est-ce que tu crois que Dieu t'aime malgré tout et que tu ne juges pas l'amour de Dieu à ton égard par tes circonstances ou par tes expériences? L'amour de Dieu est au-dessus de tout cela. Amen. Ce sont des nuages noirs qui peuvent venir sur toi. Et dans la vie, nous avons tous des nuages noirs, n'est-ce pas vrai? Mais au-dessus de ces nuages, il y a le soleil qui brille. C'est le soleil de son amour. Et il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Tout nuage noir a son bord d'argent. C'est ce qui te redonne de l'espérance, qui n'est point contre toi. Et même il voit tout ce que tu as fait pour lui. Car il est dit ici, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Et bien souvent, c'est même à cause de notre obéissance et de notre amour pour le Seigneur qu'on souffre tout cela. Ça va encore plus loin. C'est parce qu'on l'aime et qu'on veut rester fidèle qu'on passe parfois par de plus grandes difficultés. Mais cela, il n'y a que Dieu qui le comprend. Les hommes ne le comprennent pas. Les hommes jugent tout de suite, ils ne connaissent pas la situation, ils ne connaissent pas ton cœur, ils ne connaissent pas les circonstances, et ils te jugent. Ah, si Dieu était avec lui, ben, il n'y aurait pas ça. Ah bon, t'en es sûr? Qu'est-ce qu'on a dit à Jésus quand il était sur la croix? Si Dieu est avec toi, allez, descends un petit peu et puis on va croire. Ah oui, qui avait raison? Comment jugeait-il le Seigneur? Comment le jugeait-il? Si tu es vraiment le Messie, descends de cette croix. Et on te croira. Quelle incompréhension! Du plan de Dieu, n'est-ce pas vrai? Il pensait qu'il était maudit, alors qu'il portait la malédiction des hommes. Alors que c'est son amour qui le tenait sur la croix. Ce ne sont pas les clous qui tenaient Jésus sur la croix, c'est son amour pour toi et pour moi. Ça, seul Jésus le savait sur la croix, n'est-ce pas? Il savait qu'il avait l'approbation de son Père. Il savait que son Père ne l'abandonnerait jamais. C'est pour ça qu'il a pu aller jusqu'au bout, n'est-ce pas vrai? Garde cette assurance en toi. Dieu ne t'abandonnera jamais, même si les hommes t'abandonnent. Même si les hommes ne te comprennent pas. Dieu, lui, sait tout. Il sait tout. Persévère. À Dieu la vengeance et à Dieu la rétribution. Persévère. Dans la foi, dans la vérité, dans ta loyauté avec le Seigneur, persévère. Un jour, tout viendra à la lumière. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Voilà un plus que nous avons besoin d'expérimenter toujours plus. Amen. Toujours plus. Toujours plus confiant dans son amour. Toujours plus ne pas douter qu'il nous aime. Toujours plus. Plus nous serons convaincus qu'il nous aime, quelles qu'en soient les circonstances, plus son esprit de victoire nous tiendra, nous soutiendra jusqu'au jour de son prochain retour. Et son retour est proche. Soyons prêts, mes amis, croissons dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux aller plus loin, alors plus de fruits, tu seras émondé. Tu ne dois plus vivre pour recevoir, mais pour donner et te donner. Et troisièmement, nous devons croire en l'amour de notre Seigneur, quelles qu'en soient les circonstances. C'est alors que sa victoire nous animera
et que nous serons aussi une bénédiction et une inspiration aux autres. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.